Qui est-il donc celui-ci ? La question que se posent les disciples, les humains de tous les temps se la posent aussi à propos de celui qu'ils devinent être à l'origine de leur existence, de la vie, du monde. Peut-être que les jeunes ici rassemblés se la posent également, et le sujet qui m'a été confié ce matin dans le cadre de cette neuvaine pourra peut-être les aider ou pas. Parce que la paternité de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est peut-être la première fois qu'ils en entendent parler. Oui, nous les chrétiens, aujourd'hui, nous disons que Dieu est Père. Alors, c'est presque son vrai nom, je vais vous le confier en secret, mais vous aurez le droit de le répéter. Son vrai nom, c'est le Père Amour ou Papa d'Amour, comme vous voulez. Parce que les Grecs, qui influencent encore beaucoup notre langage, nous ont fait adopter ce mot de Dieu, qui vient de leur dieu principal, Zeus. Mais quand on connaît leur mythologie, et les 6e, 5e, ils connaissent la mythologie, ils viennent de voir ça en histoire, chez les Grecs et les Romains, franchement, l'image programme de Zeus ou de Jupiter, c'est pas terrible comme image programme. Alors laissons donc tomber le mot Dieu, mais par quoi le remplacer ? Ah, les hommes sont pleins d'imagination. Et on a inventé, selon les lieux, grand esprit, Bouddha, Allah, être suprême, grand Manitou. Mais non, je vous le dis, en fait, son vrai nom, c'est Père Amour. Mais est-ce que nous avons trouvé ça tout seul ? Ou bien est-ce une révélation, un peu comme pour Saint-Pierre, vous savez, « Heureux es-tu, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Pourtant, notre intelligence, qui est quand même grande, n'est-ce pas, nous conduit naturellement à penser que le Créateur est Père. Accrochez-vous pour bien suivre ma logique. S'il donne la vie, il est Père. S'il donne la vie, c'est qu'il aime. Et s'il aime, il ne donne pas la vie tout seul. Il la donne en partenariat, par échange harmonieux, dans une relation parfaite. Vous savez qu'on peut admirer ça dans la paternité et la maternité d'un couple humain, créé justement à l'image et à la ressemblance du Créateur, nous dit la Genèse. C'est comme ça qu'on lui ressemble. Eh bien, alors, on peut dire aussi que Dieu est mère, qui donne la vie et qui aime. Mais enfin, je vous emmène là au cœur du mystère de la Sainte Trinité, et ce n'est pas tout à fait le sujet. Quoique, nous y reviendrons un peu. Alors, il ne faut pas chercher non plus, je pense, s'il aime depuis qu'il a donné la vie ou s'il aime avant d'être père, c'est-à-dire avant la création, qui, elle, peut être à peu près datée. Ce problème de l'œuf et de la poule, qui a commencé, un œuf ou une poule ? On s'en fiche un peu, c'est inutile quand il s'agit du Père Amour, puisqu'il est éternel. Il est dans leur temps et que son essence même est l'amour. Donc, je me résume, il est, il aime, et il est père et mère. Voilà qui est clair. Enfin, disons que cela est sans doute assez clair pour nous, maintenant, petits chanceux que nous sommes, parce que nous avons des connaissances scientifiques sur les signaux lumineux qui seraient à l'origine de la création. Ces connaissances, assez récentes, éclairent le texte poétique de la Genèse et le texte mystique du prologue de l'Évangile de Saint Jean, mais je ne suis pas assez scientifique pour vous les expliquer. Alors nous sommes d'autant plus chanceux que nous bénéficions aussi d'une grande tradition de 20 siècles d'études théologiques qui scrutent les révélations de Jésus. Mais pour l'ensemble du genre humain, dans ses pensées, dans ses recherches, depuis quand l'homme considère-t-il le Créateur comme un père ? On m'a dit parfois que cette révélation nous a été donnée par Jésus comme une absolue nouveauté et que, comme nous le disons à la messe dans l'introduction au Notre Père, c'est grâce à lui que, comme Jésus nous l'a appris, nous osons dire Notre Père. Pourtant, dans les livres de l'Ancien Testament, nous trouvons déjà la mention de Père appliquée à celui qu'ils appelaient Elohim Yahvé ou au Seigneur Créateur. Alors, on est tenté de rechercher une évolution de la pensée des hommes à travers les livres de la Bible dans la chronologie de leur rédaction, qui s'étale sur environ 1000 ans pour ce qui concerne l'Ancien Testament. La question de ma recherche, ça a été, est-ce que la foi en Dieu et la connaissance des humains sur leur Créateur évoluent ? Eh bien, oui, bien sûr, mais on ne peut pas trop se fier pour s'en rendre compte à la succession des différents livres de la Bible. D'abord parce que la datation des récits les plus anciens est extrêmement difficile, mais surtout parce que, comme nous expliquent les exégètes, les textes ont évolué au cours des âges, sous l'effet de modifications ou carrément d'ajouts réalisés par les scribes et les penseurs de chaque génération. Néanmoins, dans une lecture cursive de l'Ancien Testament, on remarque bel et bien une évolution de la pensée humaine sur Dieu. Dès les premiers textes, de 1000 à 500 avant Jésus-Christ, des psaumes parlent déjà du Seigneur comme d'un père. Ainsi le psaume 67, « Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. » De même le psaume 102, « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. » Et encore plus clairement, nous entendons au psaume 88, « Voici comment il s'adressera à moi, Tu es mon Père, tu es mon Dieu, le rocher où je trouve le salut. Alors je ferai de lui mon fils aîné. » Cependant, dans ces prières chantées que sont les psaumes, on reconnaît que des personnes, et même dans le dernier passage, une personne tout à fait à part, sont des bénéficiaires de cette élection par Dieu. Mais la paternité ne concerne pas alors tous les hommes. Ça concerne les faibles orphelins dans le psaume 67, les hommes craignant Dieu dans le 102, et dans le 88, nous savons qu'il s'agit de Salomon, d'après le deuxième livre de Samuel et le premier livre des Chroniques. En effet, dans le chapitre 7 du deuxième livre de Samuel, Dieu, par la bouche du prophète Nathan, explique au roi David la promesse pour sa descendance. « Quand tes jours seront accomplis, je susciterai dans ta descendance un successeur, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton à la manière humaine, je le frapperai comme font les hommes, mais ma fidélité ne lui sera pas retirée. » Alors, c'est à ce moment-là que David réalise la différence entre sa relation au Seigneur et celle qui va s'établir entre Yahvé et son successeur Salomon. C'est le texte qu'on a entendu ici même jeudi soir. Le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit « Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici ? Mais ça ne te paraît pas encore suffisant. Tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Toi, Seigneur, tu connais ton serviteur. À cause de ta parole, tu as accompli toute cette grande action pour instruire ton serviteur. Ainsi, tu es grand, Seigneur Dieu. Tu as fait pour ton pays des choses redoutables et tu l'as fait à cause de ton peuple que tu as libéré d'Égypte. Pour toi, tu as établi à jamais ton peuple Israël et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur, tiens-la pour toujours, agis comme tu as dit. » Dans cette belle prière, clairement, David considère sa relation au Seigneur comme celle d'un humble serviteur. Vous avez entendu, hein ? On l'a entendu au moins 4 ou 5 fois. Il écoute et il essaye d'obéir aux directives que lui transmet le prophète Nathan, intermédiaire entre le Seigneur et lui. Et il comprend que si Dieu réalise des choses extraordinaires en sa faveur, c'est en tant que chef d'un peuple choisi, appelé à adorer Yahvé comme son Dieu unique. On n'est pas dans une relation père-fils, mais plutôt dans une relation maître-serviteur et peuple-adorateur, Dieu-protecteur. Tandis que pour Salomon, tout va changer dans la relation. Yahvé n'est plus un chef de guerre qui donne la victoire et extermine les ennemis. Il devient pour Salomon un père qui donne la paix. C'est ce qu'on découvre dans le premier livre des Chroniques. « Voici qu'un fils te naîtra, lui sera un homme tranquille. Je lui procurerai la tranquillité du côté de tous ses ennemis. Son nom sera Salomon, c'est-à-dire pacifique. Et pendant sa vie, Je donnerai la paix et le calme à Israël. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. » Le Créateur est donc considéré d'abord comme le père d'un seul homme choisi, puis il devient le père de tout un peuple, le peuple élu descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi, dans le prophète Isaïe, on trouve cette invocation « Seigneur, c'est toi notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Mais il va être enfin reconnu comme le Père de tous les hommes. Au chapitre 14 du Deutéronome, nous trouvons une consigne qui concerne le peuple d'Israël et seulement le peuple d'Israël. « Vous êtes des fils pour le Seigneur. » Vous ne vous ferez pas d'entaille, vous ne vous couperez pas les cheveux en signe de deuil. Bon, ça concerne que le peuple. Mais un peu plus loin, au chapitre 32 du Deutéronome, l'auteur invective ses concitoyens par des paroles qui mettent le peuple élu, malgré ses trahisons, à part, mais considère aussi toutes les autres nations comme enfants de Dieu. Il est le rocher, tous ses chemins ne sont que justice. Il est juste, il est droit. Ils l'ont déshonoré, ses fils perdus, génération fourbe et tortueuse. N'est-ce pas lui, ton père, qui t'a créé, lui qui t'a fait ? Rappelle-toi les jours de jadis. Les anciens te le diront, quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple. Voilà une première belle progression dans la connaissance du Créateur chez les écrivains de l'Ancien Testament. Ils finissent par comprendre que tous les humains sont fils et filles du Père Amour. Alors, il y a une autre évolution très importante aussi, c'est la façon d'être père pour Dieu. Au départ, vous avez entendu tout à l'heure, c'est un père sévère et violent qui agit comme certains pères humains. « S'il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton à la manière humaine, je le frapperai comme font les hommes. » Et dans Deutéronome, au chapitre 32, nous découvrons ces reproches. « Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde, le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Seigneur a vu, il réprouve ses fils et ses filles qui l'exaspèrent. Il dit, c'est une engeance pervertie, ce sont des enfants sans foi. » Mais petit à petit, très progressivement, l'homme de la Bible découvre comment agit ce Père. On voit d'abord que l'homme qui commet du mal, il est puni. Eh bien, l'homme a rompu l'alliance, l'homme meurt. Ou ça vous rappelle quelque chose ? Tous les hommes sont morts, sauf le juste Noé. C'était l'histoire du déluge. Les anciens expliquaient comme ça les inondations et les tremblements de terre. Mais c'est la justice du talion, œil pour œil, dent pour dent. Cependant, peu de temps après Noé, dès le récit des aventures d'Abraham, on constate qu'il est possible de marchander déjà avec Dieu. Je pense que vous connaissez tous le dialogue de marchand de tapis entre Yahvé et Abraham. S'il y a encore 10 élus, s'il y a encore 5 justes, s'il y a 2 justes, et puis s'il n'y a qu'un juste. Bon. Donc ainsi, un avocat habile peut détourner la punition à certaines conditions. Malheureusement, pour Sodome et Gomorre, elles n'ont pas été remplies. Mais bien vite, les fils d'Israël évoluent encore. Ils constatent que Yahvé ne prend pas plaisir à la violence de la punition, mais qu'il souffre le premier de la relation cassée entre lui et les hommes. Ainsi, de nombreuses expressions nous font voir le Créateur comme un être miséricordieux, au point que les images et les mots employés s'appliquant ordinairement à la femme dont le sein porte les bébés, le concept de Dieu Père Créateur devient pratiquement Dieu Mère de tous les humains, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est par exemple le chapitre 11 du livre d'Osée. « Mon peuple s'accroche à son infidélité, mais vais-je l'abandonner et le livrer ? Non, mon cœur se retourne contre moi, mes entrailles frémissent. » Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas Israël. Je suis Dieu et non pas homme. Je suis le Dieu saint. Je ne viens pas pour exterminer. Chez Isaïe, on trouve pour la même idée une autre expression au chapitre 49. Jérusalem disait « Le Seigneur m'a abandonné. Mon Seigneur m'a oublié. Mais une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je t'ai caché dans l'ombre de ma main. Et la même expression des entrailles se retrouve au chapitre 63 chez Isaïe. Du haut des cieux, regarde et vois le frémissement. Où sont ta jalousie, ta vaillance et le frémissement de tes entrailles? Pourtant, c'est toi, notre Père. Abraham ne nous connaît plus. Israël ne nous reconnaît pas. Mais c'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Alors oui, avec ce Père tendre et miséricordieux qui a des entrailles comme une mère, si le fautif se repent, il est pardonné. L'homme ne meurt que s'il persiste dans le mal. Alors ça, c'est l'histoire dans la Bible de Jonas et de la ville de Ninive. Vous la connaissez, l'histoire de Jonas, la baleine, tout ça. Bon. Suite à la prédication de Jonas, qu'il a refusé de faire au départ, et puis qu'il a finalement réalisé, mais plutôt bâclé en vitesse, eh bien, suite à ça, le roi de Ninive et tous ses sujets se convertissent. Et cette fois, contrairement à Sodome, il n'arrive rien de fâcheux à cette grande ville. Jonas est donc très irrité que Ninive ne soit pas détruite. Alors, le père, en bon instructeur de son fils, vient lui expliquer sa réalité essentielle au chapitre 4 du livre de Jonas. Jonas dit « Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. » Et Dieu lui répond « Comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent même pas encore leur droite de leur gauche. » Vous voyez, la situation est exactement à l'inverse de celle d'Abraham qui négociait avec son Seigneur. Là, c'est le Créateur qui se définit comme Père de tous les humains et même de tous les animaux, il l'a compté à Ninive, avec un amour si tendre qu'il ne saurait leur enlever la vie qu'il leur a donnée avant de parachever leur éducation, leur apprendre la droite de la gauche, où est le bien, où est le mal. Alors bon, on se dit, ben à la limite, pourquoi pas, puisque les pécheurs se sont convertis, c'était bien normal que leur père ou leur mère leur pardonne. Mais il y a encore bien plus fort. On découvre plus tard qu'il n'est pas besoin d'attendre une conversion du pécheur, et que parfois le père nous montre que c'est lui qui fait le premier pas et même les suivants. Sachez le prophète Osée. On a vu tout à l'heure au chapitre 11 qu'il attribue des entrailles au Créateur. Eh bien, la démonstration d'un Dieu à l'amour inconditionnel va encore plus loin. Osée, ce prophète, suit une directive de Dieu. Une directive bizarre, il accepte d'être formellement marié puisqu'il épouse Madame Gomer, la prostituée bien connue du pays. Et il ne va jamais cesser d'aller la rechercher, cette femme qui ne pouvait s'empêcher de retomber dans ses trahisons. Osée expliquait ainsi que Yahvé avait la même attitude avec chaque être humain et avec le peuple hébreu en général. Alors, il s'ensuit dans le livre d'Osée des chapitres de colère, des invectives et des malédictions qui expriment en fait la souffrance terrible de Dieu dans cette émouvante lamentation, digne d'une mère blessée au chapitre 11. C'est moi qui lui ai appris à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Quelle aurait été votre réponse à vous? Faut-il les livrer au châtiment? La réponse est non. Comme dans les plus belles histoires, ça ne peut pas être autrement dans notre aventure humaine avec le Père Créateur, ça finit bien. Au dernier chapitre d'Osée, on découvre cela avec grand soulagement. On lit « Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. » Conséquence de ces intuitions que Dieu est un Père miséricordieux comme une mère, les prophètes n'arrêtent pas d'appeler le peuple à une attitude de fils obéissant et respectueux, même si c'est souvent sans succès. Ainsi, Jérémie, tout au long de ses premiers chapitres, « Ne m'appelles-tu pas mon Père, toi le guide de ma jeunesse? Garderas-tu rancune à jamais? Eh bien, voilà ce que tu dis, et pourtant tu commets le mal. » Un peu plus loin, « Moi, je me disais, comment te placer au rang des fils et te donner une terre désirable? Je disais, tu m'appelleras mon Père, tu ne te détourneras plus de moi. Mais comme une femme trahit son compagnon, vous m'avez trahi. » Cependant, le renouveau d'Israël en tant que fils est encore et toujours promis, dès le chapitre 31 de Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. « Poussez des cris de joie pour Jacob. Voici que je les fais revenir, je les rassemble des confins de la terre, car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. » Plus tardivement, un autre prophète, Malachie, insiste et il donne déjà le ton aux livres les plus récents de l'Ancien Testament, moins de 200 ans avant la venue de Jésus. Ce sont les livres de la Sagesse et de Ben Sirac. Toujours, ça commence déjà par un avertissement lancé à la face du peuple, qui a trahi l'Alliance, bien sûr. Malachie, au chapitre 2. « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos ancêtres ?» Et chaque fois, le Père répond par une promesse renouvelée. Au chapitre 3 de Malachie, « Le Seigneur de l'univers le déclare, ils seront mon domaine particulier. Je serai indulgent envers eux comme un homme est indulgent envers le Fils qui le sert fidèlement. » Et cette promesse était déjà annoncée dans le livre des Proverbes. « Mon fils, ne rejette pas les leçons du Seigneur, ne dédaigne pas ses critiques, car le Seigneur reprend celui qu'il aime comme fait un père pour le fils qu'il chérit. » On reconnaît la même promesse dans le livre de la Sagesse, au chapitre 14. « C'est ta providence, ô Père, qui tient la barre, tu as ouvert un chemin dans la mer. » Eh bien, cette promesse sans cesse renouvelée s'explique tout naturellement, selon Ben Sirac, parce que notre Créateur nous aime comme un père et comme une mère. C'est ainsi d'ailleurs qu'il nous présente le personnage mythique de la sagesse, personnage qui est uni au Père et accomplit son œuvre, si bien que nous y reconnaissons maintenant en lisant ce livre l'action du Saint-Esprit. Au chapitre 24 de Ben Sirac, voici ce qu'on trouve. « La sagesse fait son propre éloge et dit « Je suis la mère du bel amour, de la crainte de Dieu et de la connaissance, et aussi de la sainte espérance. J'ai reçu toute grâce pour montrer le chemin et la vérité en moi et toute espérance de vie et de force. » Eh bien voilà, fidèle à la lignée des croyants qui se reconnaissent tous enfants du même papa d'amour, nous pouvons faire nôtre la prière de Ben Sirac en son chapitre 36. « Prends pitié du peuple porteur de ton nom, Israël, qui est pour toi un premier-né. » Et puis, il a terminé notre prière par les remerciements au Créateur auquel nous invite Tobie lorsqu'il propose à tous ceux qui se reconnaissent fils bien-aimés de s'adresser ainsi à leur Père. « Rendez-lui grâce, fils d'Israël. Il vous a montré sa grandeur. Exaltez-le à la face des vivants, car il est notre Seigneur, lui, notre Dieu, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. »